Et on prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On vous retrouve avec plaisir parce que la semaine dernière, Canalem était fermé, étant donné la situation météorologique, beaucoup de verglas et de ces temps-ci, là, ça se passe particulièrement chez vous. Là, depuis hier, il y a de la neige, puis même du verglas?
Oui, oui. En fait, lundi, Sudbury était pas mal fermé, puis même un peu mardi, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Quand on s'est réveillé lundi, toutes les routes autour de Sudbury étaient fermées, donc c'était impossible d'arriver ou de partir. Ça veut aussi dire que vu que les deux portions de la Transcanadienne étaient fermées, c'était impossible de traverser le Canada pendant une journée
de
journée.
Ouais. C'est-tu sérieux?
On a eu environ 50 cm de neige, puis je dirais, je reste dans un cul-de-sac, puis la déneigeuse n'est pas passée, je peux pas sortir de ma rue avec ma petite voiture.
Vous êtes emprisonné.
Oui, on
peut 50 juste marcher. 50 cm, c'est beaucoup de neige, hein? Beaucoup de flocons.
Oui, puis il est tombé un peu de verglas par-dessus, ce qui complique le pelletage.
C'est sûr. Bon, bien, bon courage. Le printemps s'en vient, ça va faire tout fondre.
C'est ce qu'on m'a dit,
espérons-le. Oui. Alors, Julien, pour commencer, des nouvelles tirées de Franco-Presse. Des aumôniers du Nouveau-Brunswick et du Québec menacés de révocation sans preuve de compétences en anglais.
On a obtenu une lettre qui a été envoyée aux employés de Bridges of Canada. Ça, c'est l'entreprise qui emploie les aumôniers qui travaillent dans les prisons fédérales. La lettre a été envoyée seulement aux aumôniers du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils vont devoir, dans les prochaines semaines, fournir un certificat de compétence dans la langue seconde. Puisqu'on parle seulement du Québec et du Nouveau-Brunswick, des aumôniers qui travaillent dans ces provinces-là, on comprend que c'est surtout la compétence en anglais qui est visée et non pas la compétence en français. Il choque un des employés à qui on a pu parler sous le couvert de l'anonymat et le député conservateur Joël Godin, c'est que la demande n'a pas été faite au reste du pays pour évaluer les compétences pour assurer l'offre de services en français dans les provinces anglophones. Cette personne-là, qui a reçu la lettre, est choquée par la demande. Elle en a parlé avec les collègues, puis elle a même été choquée d'entendre quelqu'un dans l'Ouest lui dire que l'anglais, c'était la langue du Canada. De son côté, Joël Godin, lui, voit un manque d'équité parce que les deux langues officielles doivent être sur un pied d'égalité partout au pays. Puis, on a demandé à Service correctionnel Canada, qui a fait la demande auprès de Budget Canada, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette nouvelle mesure-là. Puis, ils nous ont indiqué qu'ils ont décidé que l'entrepreneur devait démontrer sa capacité à fournir des services bilingues en anglais et en français au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est effectivement ce qu'on avait compris, mais donc, ils nient pas ce qu'il y a dans la lettre, ni ils nous ont pas donné d'autres informations si ça allait être appliqué ailleurs non plus.
Le budget de la Nouvelle-Écosse pourrait avoir un impact sur tout le secteur de l'édition des livres.
Dans son budget provincial de 2026-2027, qui vient d'être présenté il y a quelques jours, le gouvernement conservateur de la Nouvelle-Écosse prévoit des coupes importantes, dont l'abolition du programme d'aide aux éditeurs. C'est une mesure qui pourrait affecter tout le secteur littéraire en Atlantique, aussi bien en anglais qu'en français. Il n'y a pas de maison d'édition de livres francophones en Nouvelle-Écosse, mais il y a plusieurs acteurs de l'édition du livre dans l'Atlantique qui soulignent quand même que cette décision-là va avoir un impact sur tout l'écosystème parce que c'est quand même moins d'argent qui peut être utilisé dans cet écosystème-là. Il y a des auteurs aussi francophones qui publient en anglais en Nouvelle-Écosse. Il y a des éditeurs anglophones qui publient quand même quelques livres en français. Donc, on a un effet qui peut arriver sur les francophones. En perdant cet appui-là, ça va peu limiter les projets, surtout ceux qui parlent des communautés ou de leur histoire, parce que c'est des projets qui demandent plus de recherche, donc qui coûtent plus cher. Ça peut aussi entraîner une diminution du nombre de livres publiés. Puis sans ce budget-là, il y a des événements littéraires, comme peut-être des salons du livre, qui pourraient voir leur financement diminuer. Il y a un appel à la mobilisation qui a eu lieu. Il y a entre autres une campagne qui s'appelle « Defend NS Books, Nova Scotia Books, qui a été lancée. Puis, il y a une lettre qui a été signée par plusieurs organisations littéraires canadiennes, dont le regroupement des éditeurs francophones du Canada. Reste à voir si le gouvernement va reculer sur ce choix-là ou non.
On le souhaite. C'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, dans le droit, la maîtrise du français ne serait pas requise pour le prochain Ombudsman de l'Ontario.
Oui, même si le mandat de l'Ombudsman de l'Ontario, s'appelle Paul Dubé, se termine à la fin mars, on n'a toujours pas de nom pour savoir qui va le remplacer. De plus, le bilinguisme n'a jamais été exigé dans le processus d'embauche. Dans l'offre d'emploi, il était seulement mentionné que le français serait un atout et que toutes les entrevues seraient faites en anglais. Ce qui dérange surtout l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, c'est que l'Ombudsman, c'est le patron du commissaire au service en français. quand donc, ce serait important que cette personne-là soit capable de comprendre les enjeux francophones et puisse communiquer avec la population en français. Même si c'est principalement le rôle du commissaire, bien, le Ombudsman a quand même un rôle à jouer. Quand le commissariat a perdu son indépendance, là, quand Doug Ford a fait cette décision-là, ça s'est retrouvé sous l'Ombudsman. La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, avait promis que le prochain Ombudsman serait bilingue. Donc, on attend de voir si la promesse va être tenue. Puis même si le bureau de la ministre affirme vouloir respecter cet engagement-là, il n'y a rien dans les lois, la loi sur les services en français ou la loi de l'Ombudsman qui l'oblige à être bilingue. Donc, il va falloir attendre de voir qui va être choisi par le comité.
Oui, il n'y en aura pas de facile, comme dirait l'autre. L'Association canadienne francophone, l'Association canadienne française de l'Alberta veut demeurer canadienne, c'est dans le franco.
Oui, l'ACFA se lance dans le débat référendaire albertain en rejoignant les rangs de l'organisme Forever Canadian ou Canadien pour toujours, qui a été créé par un ancien ministre de l'Éducation de l'Alberta. Selon la présidente de l'ACFA, Nathalie Lachance, son mandat, le mandat de l'association, c'est de protéger les acquis des franco-albertains. Ça inclut la Charte canadienne des droits et libertés. La plupart des avancées pour la francophonie, aussi bien en Alberta que dans les autres provinces, là, ça a été obtenu grâce à des luttes souvent aidées par des ententes fédérales provinciales et par la Charte canadienne des droits et libertés. L'association avec Forever Canadian a également encouragé cet organisme-là, là, qui est assez récent, à devenir bilingue. Ils ont traduit leur nom et leur logo parce qu'avant, c'était juste en anglais. Je vous rappelle qu'il y a une pétition qui circule actuellement en Alberta là, pour demander un référendum sur l'indépendance de la province. S'il y a ces signatures, que ça aboutit, ça ne peut pas être bloqué selon les nouvelles règles. Ça va faire partie d'une série de questions référendaires qui vont être soumises aux Albertains à l'automne.
Vous nous parlez des Jeux de l'Arctique, de très belles performances pour les territoires aux Jeux de l'Arctique.
Oui, c'est les trois journaux francophones des territoires, là, le Nunavoie, l'Aquilon, l'Aurore boréale, qui ont collaboré pour couvrir ces Jeux-là, les Jeux d'hiver de l'Arctique qui avaient lieu à Whitehorse, au Yukon, cette année. C'est l'Alaska qui a remporté le plus de médailles avec 204. Le Yukon était pas loin derrière en deuxième place avec 159, tandis que les territoires du nord-ouest en ont eu 86 et le Nunavut 40. Je vous rappelle que les pays scandinaves aussi et le Groenland participent à ces Jeux-là. C'est pas juste l'Alaska et le Canada. Pendant les Jeux d'Arctique, il y a des sports auxquels on est habitué, comme du patinage et du hockey puis du ski. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les Jeux d'aînés. C'est les d'aînés comme le nom de la première nation des territoires du Nord-Ouest. Ce sont des épreuves basées sur les traditions autochtones et qui servent à renforcer physiquement le corps pour vivre dans les conditions difficiles de l'Arctique canadien. Je vous en présente trois pour vous donner des exemples. Il y en a un, c'est le saut avec les deux pieds. Donc, l'athlète doit sauter soit avec un élan ou sur place, frapper une petite balle qui est suspendue avec au moins un de ses pieds, puis retomber correctement sur ses deux pieds. Et ensuite, le stick pull, ou tir du bâton peut-être. Là, il y a deux personnes qui tiennent ensemble un même bâton d'environ 20 cm. Mais le bâton est entièrement couvert de graisse.
Oh.
Puis le but c'est de l'arracher à l'adversaire, puis c'est celui qui gagne qui remporte l'épreuve. Ça tire son origine de la pêche. Hein. C'est comme un poisson glissant qu'on
essaie
de garder en main. Puis, finalement, j'ai lu un article sur une discipline, un article entier sur une discipline qui s'appelle le airplane. Ça ressemble un peu à une version extrême de la planche. Quelqu'un se couche par terre, il y a quatre personnes qui l'attrapent par les chevilles et les poignets et le soulèvent de terre. Le gagnant, c'est celui qui doit rester immobile, donc on peut pas. Le dos doit rester droit, les muscles des bras et des jambes ne doivent pas bouger aussi longtemps que possible. Si vous croyez que c'est facile,
non.
Pas sûr, non, je pense pas, parce que le record du monde date de 2016 et est seulement de 46,69
secondes. Oh, c'est très original. Les Jeux de l'Arctique qui sont en cours ou c'est terminé?
Ça vient de se terminer cette fin-là.
Oui. Bien, merci beaucoup, Julien. C'est ici qu'on va se quitter. Puis je vous souhaite bonne chance dans la neige, bon pelletage. Faites attention à votre dos et à la semaine prochaine.
Oui, absolument. Merci beaucoup.